Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un bel été. Rendons grâce à Dieu qui nous donne un beau ciel bleu et quelques rayons de soleil. Ça faisait un moment déjà. Est-ce que vous vous demandez parfois, mais où va le monde ? Est-ce que ça vous arrive de vous demander, mais où va le monde ? Où va notre monde ? Depuis plus d'un an et demi, nous voyons notre monde fragilisé par un virus. Nous traversons les saisons entre confinement et déconfinement. Et cette semaine, ce qui agitait la toile, c'était tous les débats autour du pass sanitaire. Et chose assez triste, cette question était déjà cause de division parmi les chrétiens. Et depuis plus d'un an et demi, j'ai appris à m'attacher à la parole de Dieu que nous avons lue, à m'accrocher au seul texte qui dit la vérité au milieu de toutes les fake news qui circulent. Et c'est avec cet état d'esprit que je vous encourage cet après-midi à aborder le dernier chapitre du livre de Joël. Nous avons déjà passé deux dimanches sur les trois premiers chapitres et j'aimerais simplement les récapituler. D'abord les chapitres 1 et 2. Alors cela se passe longtemps avant Jésus-Christ. Nous avons vu qu'un malheur a lourdement frappé le royaume de Juda, la partie sud du pays d'Israël, ainsi que ses récoltes. La sécheresse d'abord, puis une invasion de sauterelles qui a tout ravagé sur son passage. Et ce phénomène n'est pas arrivé par hasard. C'est Dieu qui a puni son peuple, conformément aux clauses de l'Alliance. Clauses qui prévoyaient des malédictions en cas de désobéissance. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Dieu aime son peuple et lance un appel. Rassemblez-vous, jeûnez, revenez à moi. Et la suite du texte laisse penser que le peuple est vraiment revenu à Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait une série de promesses qui vont même au-delà des événements de l'époque. Et Dieu leur promet qu'ils retrouveront leur prospérité. Les arbres porteront de nouveau du fruit. La pluie sera au rendez-vous et les récoltes seront abondantes. Il se chargera lui-même de se débarrasser de toutes les sauterelles ravageuses, de mettre un terme à ce fléau. Chapitre 3, que nous avons vu la semaine dernière, après cela, Dieu promet de déverser son esprit sur tous les membres de son peuple qui se mettront à prophétiser. Toute personne qui fera appel à Dieu sera sauvée. Et tout cela doit arriver avant le jour de l'Éternel, le jour où le Seigneur interviendra pour juger d'une manière définitive l'humanité rebelle. Comme je le disais, Dieu fait une série de promesses ou d'annonces concernant l'avenir. Ce jour de l'Éternel, il en est question également dans le chapitre que nous avons lu, le chapitre 4. Et à l'époque de Joël, Dieu révèle déjà ce qui doit se produire lors du dernier acte de l'histoire de ce monde, de notre monde tel que nous le connaissons. Le dernier acte, la dernière partie de l'histoire, les derniers jours dans lesquels nous nous trouvons en ce moment, depuis la venue de Jésus. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans la dernière partie de l'histoire. Qui peut me rappeler le thème de cette année ? Persévérer dans l'espérance. Et c'est en effet un message plein d'espérance que ce chapitre 4 nous laisse. Un jour prochain, le Seigneur de l'histoire jugera ses ennemis et habitera pour toujours avec son peuple. Un jour prochain, le Seigneur de l'histoire jugera ses ennemis et habitera pour toujours avec son peuple. Et je vous propose cet après-midi de nous poser la question suivante. Qu'est-ce que cela nous dit de Dieu lorsque nous affirmons cela ? Qu'est-ce que cela nous dit de Dieu ? Par ce texte de Joël, qu'est-ce que Dieu nous révèle à son sujet ? Eh bien d'abord, Dieu nous dit qu'il est le maître de l'histoire. Dieu est le maître de l'histoire. Dans notre texte et dans bien d'autres textes de la Bible, Dieu annonce l'avenir. Dieu fait des promesses qu'il est le seul à pouvoir réaliser. Dieu connaît l'avenir parce que c'est lui qui conduit les circonstances en tant que maître de l'histoire. Le Dieu que nous avons célébré dans nos chants à l'instant n'est pas dépassé par les circonstances, ni par le mal que l'être humain peut commettre. Dieu ne se sent pas débordé, malgré tout ce qui ne tourne pas rond dans notre monde. Non, Dieu maîtrise le cours des événements. Et c'est ce que nous voyons à plusieurs endroits dans notre texte. D'abord, les versets 1 et 2. « Voici en ces jours-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort et de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux, au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au sein de peuples étrangers, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. » Et puis un peu plus loin, les versets 6 à 8, en accusant les ennemis du peuple de Dieu, « Vous avez vendu les Judéens, les Jérusalémites, aux Ioniens, pour qu'ils soient éloignés de leur pays. Eh bien moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous les avez vendus. Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai votre population aux Judéens qui les vendront aux Sabéens, cette nation lointaine. C'est l'Éternel qui le déclare. » Dieu annonce qu'il prendra en charge la cause de son peuple. Il changera le sort de son peuple. Et dans d'autres traductions, il fera revenir les captifs. Il rétablira la situation de son peuple maltraité par les nations qui l'entourent, ce qui arrivait fréquemment à cette époque. L'Éternel se chargera de juger ces peuples qui s'en prennent à Juda et à Jérusalem. Et cela devait être rassurant. Cela devait être rassurant pour le peuple de Juda, de savoir qu'un tel Dieu conduit la destinée des peuples. Un Dieu qui se place au-dessus des peuples de la terre. Même une nation puissante, plus puissante qu'Israël, même cette une nation puissante n'est rien devant le maître de l'histoire. Et face aux ennemis de son peuple, Dieu dit ceci au verset 4. « Et vous, Tyr et Sidon, et tous les districts philistins, quelles sont donc vos prétentions à mon égard? Voulez-vous vous venger sur moi? Ou vous en prendre à moi? Bien vite, promptement, je ferai retomber sur vous tous vos agissements. » Par cette interpellation, Dieu montre que c'est une folie de s'en prendre à lui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'un peuple devant le Dieu de l'univers? Dieu est beaucoup trop fort pour eux. Et c'est lui qui aura le dernier mot quand il jugera tous les peuples. À l'heure des discours complotistes et à l'heure où les médias relayent toutes sortes de nouvelles alarmantes dans le monde, nous devons nous arrêter devant ce texte de Joël et considérer le Dieu qui nous parle cet après-midi. Il est le maître de l'histoire. Oui, d'un point de vue humain, il y a des puissants dans ce monde. Il y a des pays qui dominent sur d'autres pays, économiquement, scientifiquement, militairement. Oui, c'est vrai. Mais du point de vue de Dieu, celles et ceux qui dirigent ou qui semblent diriger le train de ce monde devront des comptes à leur Créateur. Dans notre texte, ces nations qui oppriment le peuple de Dieu représentent un échantillon de toute la révolte qui existe contre Dieu. Et Dieu promet qu'il jugera ces hommes et ces femmes qui se dressent continuellement contre lui. Cela fait partie de notre espérance, de savoir qu'au jour de l'Éternel, rien ne restera impuni. Cela fait partie de notre espérance, de savoir qu'un jour, rien ne restera impuni. Dieu livrera son juste verdict au terme de l'histoire de notre monde, à la fin. Et si les Judéens ont subi ces injustices mentionnées dans le texte, ils devaient croire qu'un jour, Dieu rendrait justice en punissant les coupables. Et si les circonstances que nous vivons aujourd'hui nous paraissent troublantes, si les injustices nous semblent insupportables, si nous avons l'impression de perdre peu à peu nos libertés. N'oublions pas que Dieu est le maître de l'histoire et que c'est lui qui décide de l'avenir de notre monde. Continuons de croire en lui. Continuons de croire en ce Dieu qui dirige notre histoire. Lui seul a le pouvoir de changer les situations. Lui seul a le pouvoir de renverser les peuples et les dirigeants orgueilleux. Lui seul a le pouvoir de protéger son Église dans les temps de persécution, comme nous pouvons le voir en Inde, par exemple. Et nous prions pour cela ce mois-ci. Lui seul a le pouvoir de faire cela. Et nous pouvons être assurés que l'histoire de notre monde, tel que nous le connaissons, est dirigée par sa main, dans la direction qu'il a décidée, vers le jour du jugement. Par ce texte de Joël, Dieu nous dit qu'il est le maître de l'histoire. C'est la première chose que nous pouvons noter. Et en même temps, il est dit qu'il est finalement le juge suprême. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous. Il est le juge suprême. Alors, en réalité, nous avons déjà dit un certain nombre de choses sur le fait que Dieu jugera les peuples. Parce que l'humanité pèche continuellement contre Dieu. Il faut qu'un jugement intervienne. Il faut bien que cela cesse un jour. Est-ce que vous croyez que notre monde restera toujours dans ce piteux état? Alors oui, sans l'intervention de Dieu, rien ne risque de changer. Et bien au contraire, ce sera toujours de pire en pire. Mais Dieu a prévu dans l'histoire un temps pour le jugement final. Et qui dit jugement final ou jugement dernier, dit qu'il n'y en aura pas d'autre après. Ce sera le dernier mot qui mettra fin à tous les mauvais agissements, au péché, à tout le mal et ses conséquences. Et dans notre texte, c'est l'Éternel qui entre en procès avec les nations rebelles qui s'en prennent à son peuple. Et leurs crimes sont énoncés. Exil, partage du pays, trafic d'esclaves. Regardez le verset 3. Un enfant qui est troqué contre une courtisane. Des filles qui sont vendues pour du vin. Les crimes de ces peuples sont dénoncés. Et Joël utilise sans doute des événements contemporains ou qui sont déjà arrivés à son peuple pour montrer que Dieu jugera ceux qui sont les auteurs de telles injustices. Et ce qui est frappant, c'est que Dieu en fait une affaire personnelle. S'en prendre à son peuple, c'est s'en prendre à lui. Et tout à l'heure, nous avons lu ce qu'il disait à Tyr et à Sidon, ainsi qu'aux Philistins. Et au verset 5, nous remarquons que Dieu parle de son argent et de son or qui ont été dérobés. Et au verset 6, que nous avons déjà lu, il est encore question de trafic d'esclaves issus du peuple de Dieu. Le Seigneur le dit et le répète au verset 4 et au verset 7, « Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. » Il est clair que l'être humain devra rendre compte un jour de toutes ses actions devant Dieu. Devant le Dieu qu'il a créé, l'être humain est responsable de ses actes. Et le Seigneur a déterminé ce jour où les nations, particulièrement ennemies du peuple de Dieu et donc ennemies de Dieu lui-même, le jour où ces nations passeront en jugement pour ce qu'elles ont fait. Et le verdict de Dieu sera parfaitement juste, incontestable. Aucun homme, aucune femme ne pourra dire ce jour-là à Dieu, « Tu as eu tort de me juger. » Ou « Tu t'es trompé, je n'ai pas fait ça. » Aucun homme, aucune femme ne pourra se dérober. La vérité éclatera au grand jour, ce jour-là. Et comme si cela ne suffisait pas, Joël nous montre le comble de la rébellion humaine à partir du verset 9. Proclamez ceci aux nations, appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. De vos socs, forgez des épées et de vos faucilles, des lances. que le plus faible clame « Moi, je suis un héros !» Hâtez-vous et venez, vous, tous les peuples, de partout, rassemblez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les peuples se rassemblent-ils? Pourquoi cette mobilisation à la guerre? Et contre qui les peuples veulent-ils combattre? La réponse se trouve à la fin du verset 11. « Ô Éternel, toi, fais descendre tes guerriers. » Dieu opposera à ces peuples qui se rassemblent son armée céleste qui descend, probablement des anges. Oui, vous l'avez bien lu, les nations se soulèvent, s'agitent contre l'Éternel. Et nous avons vu combien c'était une folie de s'en prendre à Dieu. Mais malheureusement, en voyant notre monde actuel, il n'est pas étonnant qu'un jour cela se produise, que des nations se rassemblent pour combattre Dieu, pour combattre le peuple de Dieu. Cela n'est pas étonnant lorsque nous voyons notre monde. Tantôt, le Seigneur annonce qu'il rassemblera ses nations pour le jugement. C'est ce que nous lisions au verset 2. Et tantôt, ce sont ces peuples qui se mettent en mouvement, à l'unisson, pour porter leur révolte à leur comble. Et cela montre encore une fois que Dieu est souverain, qu'il n'est pas pris de court. Cette union de tous les peuples, cette coalition, court en réalité à sa perte. Et c'est ce que nous voyons au verset 12. Que les nations se lèvent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger tous les peuples de partout. Alors il faut quand même dire un mot de cette vallée de Josaphat. Nous avons ici un nom symbolique et non un lieu réel. Outre le fait que ça soit un nom, il a une signification. Et Josaphat signifie « l'Éternel juge ». Et c'est bien de cela dont il s'agit ici. Les nations se mettent en mouvement pour la guerre et se retrouvent devant le juge suprême qui les attend pour les juger. Et d'ailleurs, cette vallée de Josaphat portera un autre nom au verset 14, le « Val du verdict ». Vous le voyez bien, il n'y a aucune bataille qui soit mentionnée ici. Il n'y a pas de bataille. Les peuples se rassemblent, se réunissent, veulent combattre, mais il n'y a pas de bataille. Après tout, à quoi ressemblerait un combat entre les hommes d'un côté et Dieu de l'autre? Le juge suprême prononce sa sentence au verset 13. Brandissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, et les cuves débordent, car grande est leur méchanceté. La sentence est prononcée ici. La moisson et la vendange ne sont pas ici des images de prospérité, mais de jugement. Le mal a atteint son comble. Les hommes ont montré toute leur méchanceté. Les cuves débordent. Imaginez l'image. Les cuves débordent, on ne peut plus attendre. Le jugement doit s'abattre sur les pécheurs, sur les rebelles. Et comme à chaque fois qu'il est question de jugement divin, la création est totalement bouleversée. Nous retrouvons les images des astres qui s'obscurcissent au verset 15. Le ciel et la terre sont ébranlés, verset 16. Et par sa voix, Dieu montre son autorité. Il est redoutable, tel un lion qui rugit. Il a l'autorité pour juger les peuples. Et bien que tout cela soit effrayant, lorsqu'on le décrit de cette manière-là, nous lisons une réalité rassurante pour le peuple de Dieu, à la fin du verset 16. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. Il y a une réalité rassurante au milieu de tout cela. C'est que l'Éternel est un refuge pour son peuple. Alors que la condamnation frappe les peuples qui se sont révoltés contre Dieu, Dieu protège son peuple et le met à l'abri de ce jugement. Dans notre texte, Joël insiste surtout sur le jugement des nations rebelles. Mais d'autres textes de la Bible enseignent que nous serons tous jugés. chrétiens et non-chrétiens, que nous passerons tous devant le tribunal divin. Mais le verdict sera différent. Il sera différent pour celles et ceux qui appartiennent à Dieu, qui font partie de son peuple, qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Toute l'humanité mérite le châtiment d'être séparée de Dieu à jamais, car tous ont péché. Mais dans sa grâce, qui est en un sens inexplicable, mais dans sa grâce, Dieu sauve celles et ceux qui se tournent vers lui au lieu de se révolter contre lui. Et pourtant, ces derniers qui se tournent vers lui ne méritent pas plus que les autres cette faveur. Et c'est ainsi que nous voyons une différence entre le sort du peuple de Dieu et le sort des autres nations, ennemis du peuple de Dieu. Regardez par exemple les versets 19 et 20. L'Égypte, qui représente un des ennemis du peuple d'Israël, l'Égypte deviendra une désolation et Édom, un désert tout entier dévasté à cause des violences qu'ils ont commises contre les Judéens, dont ils ont répandu le sang dans leur pays alors qu'ils étaient innocents. Et regardez la différence. Quant à Juda, il sera toujours habité. Jérusalem le sera d'âge en âge. Les Judéens de l'époque de Joël devaient savoir que Dieu ferait une différence entre ceux qui se confient en lui et ceux qui le rejettent. Et au jour de l'Éternel, il sera trop tard pour regretter ses mauvais choix. Tout comme les Judéens devaient croire en cette promesse, que s'ils mettaient leur foi dans le Seigneur, ils seraient sauvés, aujourd'hui, c'est aussi en Jésus, le Seigneur, qu'il nous faut mettre notre foi. Et le Nouveau Testament nous renseigne sur l'identité du juge en question, Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, versets 22 à 23, Jésus dit « De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils, c'est-à-dire Jésus, afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qui l'a envoyé. » En croyant en Jésus, nous confions notre destinée éternelle entre les mains du juste juge. Et quel juge ? Quel juge quand nous pensons qu'il a payé pour nous ? Vous connaissez beaucoup de juges qui paient la condamnation de ceux qui sont coupables. Quel juge quand nous pensons qu'il a payé pour nous ? As-tu placé ta confiance dans le Seigneur ? J'aimerais te poser la question cet après-midi. Crois-tu qu'il sera ton refuge au moment du jugement et que tu échapperas à la condamnation réservée aux pécheurs qui sont restés opposés à Dieu ? Crois-tu qu'il te fera grâce en regardant non pas à ce que tu as fait de bien, mais à ce qu'il a accompli pour toi ? La bonne nouvelle, si tu fais partie du peuple de Dieu, c'est que l'Éternel est un refuge pour son peuple et que tu n'as pas à redouter l'issue de ton jugement. Grâce à Christ, tu seras acquitté. Par ce texte, Dieu nous dit qu'il est le maître de l'histoire. Mais Dieu nous dit aussi qu'il est le juge suprême. Et enfin, il nous dit qu'il est le Dieu saint. Relisons le verset 17. « Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui réside en Sion, mon saint mont. Jérusalem sera un sanctuaire, et plus jamais les étrangers n'y passeront. » Pourquoi Dieu fait tout cela ? Pourquoi tout ce que nous avons évoqué concernant son jugement, concernant le fait qu'il soit un refuge pour son peuple ? Pourquoi tout cela ? Afin que son peuple reconnaisse qu'il est le Seigneur, qu'il est le Dieu de l'Alliance, qu'il est, comme il le déclare, votre Dieu. Et parce qu'il est Dieu, là où il se trouve, le lieu devient saint. Ce lieu saint devient l'espace où il est possible de rendre un culte à Dieu. Et au temps de Joël, le lieu saint était limité au temple de Jérusalem, sur le mont Sion, C'est là qu'il fallait venir pour adorer Dieu. C'est l'endroit que le Dieu Saint avait choisi pour établir sa présence. Et voilà qu'il est dit ici au verset 17 que Jérusalem sera un sanctuaire. Donc ce n'est plus seulement le temple qui est ce lieu saint, mais la ville entière qui sera sainte. Car c'est là que Dieu demeurera au milieu de son peuple. Un peuple qui l'aura purifié pour que cette cohabitation soit possible. C'est pourquoi il n'y aura pas d'étrangers. Alors la traduction peut être ambiguë sans explication. Dans les versions plus littérales, le mot étranger a été traduit par profane. Il n'y aura plus de profanes qui passeront par là. Profane, c'est-à-dire opposé à ce qui est sacré, à ce qui est saint. Autrement dit, celles et ceux qui n'auront pas été purifiés par Dieu ne pourront pas résider dans la ville sainte, là où Dieu demeure. Et il est sans doute question ici de la nouvelle Jérusalem. Ce sera un lieu paradisiaque où le vin, le lait, l'eau couleront à flot. Ce sera un lieu toujours habité par le peuple de Dieu, comme nous le lisons au verset 20. Et ce sera un lieu où Dieu habitera, verset 21. Et nous retrouvons cette idée de ceux qui seront dans la ville et de ceux qui n'y seront pas dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 22, les versets 14 à 15. « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Et puis, dans notre texte, il y a cette source, à la fin du verset 18 qui s'affiche ici, il y a cette source qui jaillit du temple de l'Éternel. Alors, quelle est cette eau qui provient du temple? Qu'est-ce que ça signifie? Je m'appuie ici sur l'interprétation de Sylvain Romerowski. Pour changer. Précédemment, au chapitre 3, Dieu avait promis de déverser son esprit sur tous les membres de son peuple. Le verbe « déverser » évoque l'image de l'eau. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, l'eau est utilisée comme image pour parler de l'esprit. Et de même, dans le Nouveau Testament, Jean mentionne ces paroles de Jésus. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Vous avez entendu l'explication de Jean? Elle me semble claire. Jésus, en parlant de l'eau qui jaillit, fait référence au Saint-Esprit, qu'il donnera plus tard à ses disciples. Et Sylvain Romerowski fait remarquer que quelques chapitres plus tôt, dans l'évangile de Jean, Jésus s'est présenté lui-même comme le temple. Autrement dit, la source qui jaillit du temple, dans le texte de Joël, désigne l'Esprit que Jésus envoie, qu'il déverse sur les siens. Et pourquoi cette source, sur laquelle je me suis un peu attardé, pourquoi cette source est si importante et doit jaillir pour arroser autour d'elle? L'eau dans le temple servait à se purifier avant de se présenter devant Dieu, pour pouvoir être rituellement pur devant Dieu. Et de même, l'Esprit nous est donné pour nous purifier. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant, « Purifie mon cœur ». L'Esprit nous est donné pour nous purifier, pour nous donner un nouveau cœur, pour nous transformer, pour nous rendre semblables à celui qui est saint, Jésus notre Seigneur. Et cette transformation, cette purification, sont indispensables pour que Dieu puisse un jour habiter parmi les siens. Vous imaginez bien que dans l'état où nous sommes, cette cohabitation ne serait pas possible. Il faut que nous devenions parfaits. Tout comme Dieu est parfait. Il faut que nous devenions saints, tout comme Dieu est saint. Parce que pour l'instant, nous sommes loin du compte. Mais Dieu s'en charge. Dieu se charge de cela. Car lui seul a le pouvoir de faire de nous de nouvelles créatures au sens plein du terme. Totalement neuf. Lui seul a le pouvoir de nous transformer totalement. Alors bien évidemment, cela ne veut pas dire que nous devons attendre cette transformation patiemment, passivement. L'enseignement biblique va même plutôt dans le sens de cultiver notre sainteté, de mener une vie sainte, une vie qui plaise à Dieu. Mais en ce qui concerne notre transformation la plus profonde, c'est Dieu qui s'en charge. Nous ne pouvons pas nous changer par nous-mêmes. Totalement neuf. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement le cas. Le processus a déjà commencé, mais nous ne sommes pas totalement neufs. En disant cela, vous voyez que cette prophétie de Joël a déjà commencé à se réaliser depuis la venue de Jésus. Et c'est tout un processus qui se prolonge jusqu'au retour de Jésus. Et c'est à ce moment-là. Alors que Dieu est déjà avec nous aujourd'hui par son esprit, à ce moment-là, au retour de Jésus, il sera avec nous, avec son peuple, d'une manière toute particulière et que nous n'aurons jamais vécue. Oui, l'histoire pour le peuple de Dieu va dans ce sens, dans cette direction. Un peuple justifié, un peuple acquitté, un peuple saint qui sera continuellement dans la présence du Dieu saint. Et c'est sur ces mots, porteurs d'espérance, que Joël termine son livre. L'Éternel habitera en Sion, avec son peuple, d'âge en âge, c'est-à-dire pour toujours. C'est ce que nous attendons. Alors pour revenir sur ma question initiale, mais où va le monde ? Eh bien j'espère qu'avec Joël 4, vous avez votre réponse. Où va le monde ? Cet après-midi, avec ce texte, nous avons entreaperçu l'avenir tel que Dieu nous le révèle. Nous n'avons pas besoin de voyants pour nous prédire l'avenir, mais Dieu nous révèle cet avenir. Et à la fin des temps, et précisément au jour de l'Éternel, le Seigneur de l'histoire jugera ses ennemis et habitera pour toujours avec son peuple. Et cela nous est révélé pour que nous reconnaissions qu'il est l'Éternel, notre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et en effet, comme nous l'avons vu, il est le maître de l'histoire, c'est lui qui conduira l'histoire de notre monde à son terme, au terme qu'il a fixé, lui. Il est le juge suprême, celui qui a le dernier mot et qui prononcera sa sentence à l'égard des nations qui se sont soulevées contre son peuple et contre lui. Et enfin, il est le Dieu saint qui habitera au milieu d'un peuple entièrement saint, purifié, transformé par l'Esprit. Et ce n'est rien de moins que son œuvre. Et quelle grâce pour nous de pouvoir en bénéficier. Le jour de l'Éternel est proche et tu as encore le temps aujourd'hui de faire la paix avec Dieu, de renoncer à une vie de révolte parce que tu as vu où cela mènera, à un jugement terrible, à la condamnation d'être séparé de Dieu éternellement. Et sache que Dieu a fait le premier pas vers la réconciliation en envoyant son fils Jésus, qui a vécu une vie parfaite, sans péché, qui est mort innocemment en portant nos fautes et qui est ressuscité et vivant pour toujours, afin de nous accorder la vie, la seule qui vaille la peine de vivre, dès lors que nous plaçons notre confiance en lui. Et cette vie nouvelle en vaut la peine quand nous savons qu'un jour prochain, nous serons pour toujours avec notre Seigneur. Mais nous devrions encore plus apprécier le fait que lui, le Dieu Saint, sera pour toujours avec nous. Avec nous, des pécheurs qu'il a sauvés par grâce. Amen. J'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, il n'est peut-être pas facile pour nous de nous dire que ce monde s'achemine dans son histoire vers un jour de jugement. Parce que bien évidemment, nous pensons à beaucoup des nôtres qui ne te connaissent pas. Et nous prions encore une fois pour eux, pour te demander de leur faire grâce, pour qu'au jour du jugement, parce qu'ils auront placé leur confiance en Christ, eh bien, tu veuilles les acquitter. Oui, Seigneur, nous voyons encore par ce texte que nous avons lu, que nous avons étudié, que nous avons médité, nous avons vu que tu es réellement le maître de l'histoire et que c'est toi qui mettras un terme à l'histoire de ce monde déchu tel que nous le connaissons. Oui, un jour, il y aura un nouveau monde, une nouvelle ère totalement transformée. Et c'est notre espérance. Merci Seigneur parce que tu te révèles à nous comme étant ce juge suprême et effectivement, toutes les injustices seront punies. Rien n'échappera à ton jugement. Tout mal qui doit être puni le sera. Et enfin, tu te révèles comme étant le Dieu saint, celui que nous devons redouter, celui que nous ne pouvons pas prendre à la légère, et celui qui a fait la démarche de venir vers nous, de nous tendre la main, de nous proposer de venir à toi pour nous laisser transformer par toi, parce que par nous-mêmes, nous en sommes incapables, pécheurs comme nous sommes. Mais tu nous ouvres cette porte pleine d'espérance, de savoir que c'est toi qui nous transformes, c'est toi qui nous rendras entièrement saints, de telle sorte qu'on pourra espérer pleinement, avec certitude, qu'un jour nous serons avec toi, qu'un jour tu habiteras parmi nous. Oui, quelle espérance grandiose! Et même si peut-être aujourd'hui nous ne faisons que l'entrevoir, permets-nous, Seigneur, que cela nous soutienne dans les moments difficiles, que cela nous soutienne dans les moments où nous pouvons douter en voyant le train de ce monde et la manière dont les choses se déroulent. Mais tu es le maître de l'histoire et tout finira par te rendre gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.